Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Elles ne font pas que respirer et nous émouvoir et nous charmer. Elles voyagent aussi, et beaucoup, et depuis la nuit des temps, ou presque. Depuis en tout cas que les graines existent. Tulipes, mimosa, eucalyptus, roses, jacinthes. Les plantes et les fleurs se déplacent, se propagent grâce au vent, grâce à l'eau. Quand il n'y a plus rien sur la terre, j'herborise dans ma tête, écrivait Jean-Jacques Rousseau, et malheureusement, je ne trouve que de mauvaises herbes. Dans la matinée des autres, consacrée à la route des fleurs, il n'y a que des fleurs et plantes aux propriétés multiples, magiques, symboliques, médicinales, et, bien sûr, faites pour le plaisir de nos sens visuels et olfactifs. Première diffusion sur France Culture, le 30 décembre 1980.
Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour, » dit le petit prince. « Bonjour, » dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. « Les hommes, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver, le vent les promène. » Il manque de racines. Ça les gêne beaucoup.
La matinée des autres.
Langage des fleurs.
Seringa.
Je garde toujours votre souvenir.
Cyclamène.
Votre beauté me désespère.
Tubéreuse.
Mon cœur vous désire.
La route des fleurs, par Jacqueline Kellen.
Les chrysanthèmes prospèrent en bordure, à l'est. Les bambous sont les princes des fenêtres du nord. Les pivoines, qu'elles soient rouges ou blanches, sont source de discorde. Les lotus ne se développent qu'en terre plate. Sans eau claire et pure, ils ne donnent pas de fleurs. Moi, l'autre année, en déplaçant ma demeure jusqu'ici, j'ai transplanté un pied de bananier. Bien que le climat de cette région de nuit soit guère favorable, il a pris souche avec de nombreuses et envahissantes racines. Son feuillage luxuriant s'est superposé jusqu'à rétrécir le jardin et ses tiges ont dissimulé mon auvent. Aussi a-t-on encore appelé ce lieu l'ermitage d'herbe. Mes amis d'alors et mes disciples l'ont aimé. Ils ont pris soin des bourgeons et divisé les racines et, depuis plusieurs années, on en distribue les surgeons à droite et à gauche. Quand je pris la décision de partir en voyage dans le nord, l'ermitage au bananier était déjà vétuste. Mon arbre a donc été remis en terre par les voisins auxquels j'empruntais une couverture pour le protéger du gel et du vent. J'ai même dû l'envelopper à plusieurs reprises. À mon seul pinceau, j'ai pu confier mon inquiétude. Si le pin peut rester solitaire, c'est la séparation des hommes et l'abandon de mon bananier qui me donnèrent du souci durant les nuits de mon lointain voyage. Après 5 printemps et 5 automnes passés dans une incommunicable mélancolie, une fois encore, mes larmes sont pour lui. Matsuo Basho, Japon, 17e siècle.
À la fin du 18e siècle, Humboldt proposait en botanique divers sujets à aborder qui n'avaient jamais été encore étudiés. Je cite « L'histoire et la géographie des plantes » c'est-à-dire la description historique de l'extension des végétaux sur la surface de la Terre. l'habitabilité progressive de la surface du globe. Les migrations et les trajets des plantes, plantes sociales et plantes isolées, avec des cartes à ce propos, et quelles sont les plantes qui ont suivi certains peuples, etc., etc. Alors, deux siècles après, est-ce que l'on en sait davantage sur ces plantes vagabondes, sur ces arbres voyageurs ?
Oh oui, on sait davantage, bien sûr. À vrai dire, n'est-ce pas, on a toujours l'idée qu'une plante est fixe parce qu'on la voit sur son support, qui est le sol ou dans son pot de fleurs, et on n'imagine pas suffisamment les deux moyens de propagation qu'ont les végétaux. Le premier moyen de propagation, c'est la graine pour les végétaux supérieurs évolués, graine qui souvent d'ailleurs est pourvue de toutes sortes d'instrumentations pour être transportée par le vent. Alors c'est des petits parapluies, type par exemple les akènes, enfin les fruits des pissenlits qui ont rendu célèbre la maison Larousse. Ou bien alors, qui sème à tout vent, ou bien alors des ailes, comme pour les fruits de l'érable, ou bien alors des crochets qui peuvent s'accrocher à la toison des animaux et qui vont véhiculer ainsi des graines à longue distance. Ça, c'est le premier mode de propagation des plantes qui est très efficace.
Jean-Marie Pelt, botaniste.
Et puis alors, il y a un deuxième mode de propagation, c'est le pollen cette fois-ci, c'est les spermatozoïdes mâles au niveau de la fécondation. Un arbre, un conifère, peut féconder un autre conifère à très longue distance. Certes, il n'y a plus ici propagation de la plante elle-même ou de la future plante, comme dans le cas de la graine, mais il y a propagation tout de même de la semence, et c'est le même phénomène. Et on sait aujourd'hui que des grains de pollen de conifères peuvent traverser des montagnes, peuvent parcourir des centaines, même des milliers de kilomètres, avec tout de même ce souci de ne pas monter trop haut en altitude, car s'ils montent trop haut en altitude, s'ils montent à 3-4 000 mètres, ce qui arrive parfois, les rayons ultraviolets du soleil risquent de leur faire perdre leur pouvoir germinatif. Mais il faut imaginer qu'en dehors de l'action de l'homme, de par son dynamisme propre, le monde vivant, parce qu'il est en relation avec les éléments comme le vent ou l'eau, on n'a pas parlé de l'eau qui est très importante, le palmier des Seychelles, si célèbre parce qu'il ressemble à un cul de négresse et qu'on l'appelle d'ailleurs comme ça, le coco-fesse ou le cul de négresse, n'est-ce pas, a été découvert d'abord aux îles Maldives. On l'avait d'ailleurs appelé le palmier des Maldives et on l'a baptisé comme ça et c'est son vrai nom. Alors qu'il ne pousse qu'aux Seychelles, parce que, semble-t-il, ces graines avaient été véhiculées. Alors, est-ce qu'elles ont été véhiculées par la mer? C'est pas tout à fait sûr. Ce qui est tout à fait sûr, par contre, c'est que les graines des cocotiers, elles, sont véhiculées par la mer. Les noix de coco sont assez légères pour flotter et peuvent aller d'une île à l'autre et ont peuplé comme ça toutes les îles de l'océan Pacifique par leurs propres moyens de dissémination. Et dans ces affaires, l'homme n'est pas intervenu du tout. Les plantes ont donc des moyens puissants pour bouger. Et dernier exemple, c'est la manne des Hébreux, qui est une plante, et elle qui bouge toute seule, puisque le vent l'a fait rouler sur les sables du désert, et qu'effectivement, cette manne est riche en sucre, et a une très grande autonomie de circulation, puisque c'est la plante elle-même qui se détache et qui roule.
Langage des fleurs.
Boule de neige.
Je suis fier de vous aimer.
Par les changements de climat, il y a eu des sortes de mouvements aussi de population végétale, des reculs.
Alors ça c'est autre chose. Ça, oui, c'est quand il y a un phénomène de glaciation par exemple et que les glaciers se mettent à descendre du pôle nord vers le sud et ils arrivent jusqu'au nord de l'Europe, disons jusqu'à Amsterdam en gros, n'est-ce pas, Francfort, donc pas loin de nous. Et, ben les plantes sont obligées de s'enfuir. Alors ce ne sont pas les plantes qui s'enfuient, mais les graines. Et elles ont suivi des axes nord-sud, très facilement aux États-Unis, où les chaînes de montagnes sont dispersées et disposées dans cet ordre-là, et très difficilement en Europe. Parce qu'en Europe, en arrivant vers le sud, elles ont buté sur la Méditerranée. Et elles ne pouvaient pas traverser la Méditerranée. Les graines ne traversent pas facilement la Méditerranée pour deux raisons. D'abord pour la distance, et ensuite pour le climat. Car la Méditerranée a un climat totalement différent du reste de l'Europe, et les plantes adaptées à l'Europe du Nord ne sont pas du tout adaptés au climat méditerranéen. De sorte qu'un grand nombre de plantes et d'arbres en particulier, comme les séquoias ou comme les ginkgo qui sont de grands conifères, comme les tulipiers, se sont littéralement au cours des glaciations noyés, si l'on peut dire, dans la Méditerranée pour ne pas avoir réussi à la traverser. Tandis qu'aux États-Unis où les montagnes rocheuses sont orientées nord-sud, les plantes par leurs graines ont pu descendre le long des montagnes en retrouvant, il suffisait de monter un petit peu en altitude, des climats identiques Alors c'est très curieux parce qu'elle descendait en latitude, mais elle remontait en altitude pour garder toujours le même type de climat et par conséquent la même température moyenne. Et lorsque les glaciers sont repartis, les plantes ont resuivi. Et aujourd'hui, on sait d'ailleurs dans quel ordre à peu près les plantes ont repeuplé l'Europe, puisqu'il y a 15 000 ans, il n'y avait pratiquement plus de plantes dans toute l'Europe du Nord. Et on était ici, dans nos régions, sous un style de végétation qui évoque les toundras et par conséquent les végétations arctiques. Et puis alors les arbres sont revenus les uns après les autres et ont repeuplé tout ça.
Le second des deux voyages a eu pour unique objet la botanique, pour terme le Mont Pilat, et n'a pas eu le succès que j'en espérais, ayant été fait trop tard pour les plantes, trop tôt pour les graines, la pluie nous ayant toujours contrariés et l'ignorance du local nous ayant fait errer sans savoir trouver les vrais lieux des plantes. Nous n'avons donc rien trouvé que quelques plantes communes dans presque toutes les montagnes, le méhoum, la bistorte, le napel, le raisin d'ours, l'arnica, le doronique, le myrtille, la balsamine jaune, le cacalia, les deux digitales, etc. Une seule grande plante m'a fait plaisir. Je l'ai prise d'abord pour une laitue à fleurs bleues, mais en l'examinant à loisir, j'ai cru la reconnaître pour le Sonchus alpinus. Malheureusement, le seul spécimen que j'ai rapporté est si gâté par l'humidité qu'il n'est pas même conservable. Mais enfin, c'est toujours une nouvelle connaissance. Et comme je n'ai guère le talent d'en faire, celles que j'attrape par-ci par-là me font toujours grand plaisir. Jean-Jacques Rousseau, lettre du 31 août 1769.
Il y a aussi les trafics, si on peut dire, ou les acclimatations de plantes, graines, fleurs, qui ont été faites artificiellement, donc par l'homme, soit volontairement, soit involontairement.
On a vu les fleurs européennes, par exemple, s'enrichir de siècle en siècle par tous les apports américains. Et plus encore, on a vu les fleurs américaines s'enrichir par tous les apports européens. Apports tout à fait involontaires. Un grand nombre d'espèces sont arrivées en Europe, par exemple, avec les guerres. Et elles ont été amenées en même temps que les soldats. On peut prendre, oui, bien sûr, on prend des exemples. L'érigeron du Canada porte bien son nom parce qu'il vient du Canada. C'est une plante tout à fait banale qui est répandue actuellement partout, sur les décombres, dans les rues, dans les villes, qui a une capacité de dissémination très extraordinaire, qui est une plante envahisseuse en quelque sorte, et qui nous est venue d'Amérique. Un exemple encore plus spectaculaire dans cet ordre d'idées, c'est le cas de la jacinto, qui est une plante aquatique du Brésil, de l'Amazonie, du bassin de l'Amazone. Très belle plante, avec de très jolies fleurs d'un bleu pâle, qui n'étaient localisées qu'en Amérique latine. Bon, on a essayé pour l'acclimater de la transporter dans des jardins tropicaux d'autres continents, notamment en Extrême-Orient. Elle s'y est acclimatée, elle s'y est même tellement bien acclimatée qu'elle s'en est sauvée et qu'elle a ensuite envahi les cours d'eau, les plans d'eau de l'Extrême-Orient, et ceci avec une rapidité et une efficacité foudroyantes. De sorte qu'actuellement, lorsqu'on circule sur les plans d'eau et les canaux de Bangkok, par exemple, on s'aperçoit que du jour au lendemain, la jacinthe peut les recouvrir entièrement et que c'est une calamité pour ces populations, parce que la jacinthe se trouve là, dans un milieu qui n'est pas son milieu naturel, où elle n'a pas de compétiteurs pour l'équilibrer selon les lois de l'écologie, et comme la nature a horreur du vide et qu'elle trouve du vide, elle se précipite pour envahir le vide. Et c'est une plante d'ailleurs à laquelle on s'intéresse beaucoup pour sa capacité de fabriquer de la matière vivante à une rapidité foudroyante, donc pour faire éventuellement de la bioénergie. Ce sont les énergies du futur, c'est une des plantes du futur, celle-ci. C'est une des grandes envahisseuses.
Quand il n'y a plus rien sur la terre, j'herborise dans ma tête. Et malheureusement, je n'y trouve que de mauvaises herbes. Jean-Jacques Rousseau, 12 février 1767.
Il y a quand même quelques exemples célèbres aussi de fleurs rapportées par les croisés.
Oui, encore que, tout à fait, il y a les roses, enfin, bien sûr, de Damas, etc. Mais les croisés n'étaient pas, comme la plupart des gens du Moyen-Âge, d'abord orientés dans ce sens-là. C'est un élément secondaire de leur démarche. Un peu comme les épidémies d'ailleurs, c'est encore pire. Parce que le Moyen-Âge n'était pas tellement attaché à l'observation de la nature. Le Moyen-Âge était quand même d'essence spirituelle. Et les grandes expéditions botaniques ont en réalité commencé après le Moyen-Âge. Et ont commencé dans cette espèce de mouvance d'idées qui trouve un peu son foyer à l'école de médecine de Salerne en dessous de Naples, où il y a eu le tremblement de terre tout récemment, aussi à Montpellier, dans ces très vieilles écoles de médecine, ces plus anciennes écoles de médecine, où la tradition des anciens avait été conservée par l'intermédiaire du savoir des Arabes. En gros, le mouvement de la connaissance a été le suivant, n'est-ce pas ? Les choses se sont concentrées en Grèce, venant d'Égypte ou venant du Proche-Orient, de Babylone. Quand la Grèce s'est effondrée, une part de la connaissance est partie à Rome, mais ça a été une catastrophe. Rome n'a jamais été remarquable dans le domaine de la connaissance. Par contre, une bonne part de la connaissance est passée à Alexandrie. Et s'est maintenue longtemps à Alexandrie. Et puis après, il y a eu des désastres. La bibliothèque d'Alexandrie, comme chacun sait, a brûlé. Les Arabes ont pris le relais et les Arabes ont apporté, eux, la connaissance vers l'Europe par l'Espagne. Et Avicenne, du 10e, 11e siècle, a été le maître du savoir ancien. Et dans sa mouvance, de grandes écoles de médecine ont conservé une certaine tradition de thérapeutique et de médecine par les plantes. Et puis, on a commencé alors à redécouvrir petit à petit les documents des anciens, et on s'est aperçu que les anciens regardaient les plantes vivantes. Ce que le Moyen-Âge ne faisait plus du tout. Le Moyen-Âge dissertait, c'était le logos, on parlait au Moyen-Âge. Et bon, ceci a été suffisamment daubé par Rabelais, par exemple, n'est-ce pas ? Alors, le Moyen-Âge dissertait sur les plantes, mais ne les regardait pas, et ne les récoltait même pas. Les savants botanistes du Moyen-Âge faisaient récolter leurs plantes par des gosses, n'est-ce pas ? Les gosses leur apportaient des plantes, et alors ils les desséchaient, et ensuite ils en parlaient. Alors, on a redécouvert le savoir des anciens, on a découvert ce que disait Dioscoride, ce que disait Galien, et il disait toujours qu'une plante devait être vue dans son environnement vivant, comme un être vivant. Et à partir de là est venue l'idée d'aller chercher des plantes dans la nature. Alors d'abord dans la nature autour de Montpellier, où on a commencé à partir du XIIIe siècle à herboriser, et on a vu par conséquent ici apparaître les tout premiers herboristes, et puis ensuite dans la nature en allant nettement plus loin. Et c'est là que l'on voit apparaître les grands explorateurs et les grands chercheurs de plantes qui en gros s'étalent à partir du XVIe siècle jusqu'à nos jours.
Le vent du sud a flétri la rose dont le rossignol chantait les louanges. Faut-il pleurer sur elle ou sur nous? Quand la mort aura flétri nos joues, d'autres roses s'épanouiront. Omar Khayyam.
Langage des fleurs.
Œillet de poète.
Je suis votre esclave.
Peut-être avant d'entrer dans le détail de quelques exemples de l'histoire des fleurs, il faut situer un peu ce problème de la fleur dans le cadre plus large des usages que les hommes font des plantes.
Jacques Barrault, ethnobotaniste.
Pourquoi la fleur ? C'est évidemment une question qui paraît curieuse de se poser, tant dans nos civilisations maintenant, elle est présente dans nos jardins, elle est présente dans nos appartements, mais c'est tout de même, je crois, une question qu'il faut se poser. Ce qu'on peut dire, c'est que, d'une part, toutes les civilisations n'ont pas le même intérêt pour la fleur, et deuxièmement, néanmoins, les indices de l'ancienneté, de l'attirance exercée par la fleur ou les fleurs sur les humains est incontestable. J'en prends un exemple récent, vous en avez peut-être entendu parler. Arlette Leroy-Gourhan, palynologiste qui est la femme du grand archéologue et préhistorien Leroy-Gourhan, a récemment découvert dans une sépulture préhistorique, sur les restes d'un corps humain, une accumulation de pollen correspondant à un véritable bouquet de fleurs associé à un rite funéraire. Alors, bien entendu, cela pose un problème. Est-ce que la fleur était là simplement pour une raison de beauté, disons, de la fleur ? Plus probablement, il faut penser que, à ces objets naturels particuliers que sont les fleurs et qui attirent nécessairement l'œil, s'associe très tôt la croyance en des propriétés magiques ou symboliques, voire médicinales, bien entendu, des fleurs. Donc, très tôt, intérêt des hommes pour les fleurs. Cela dit, il faut revenir au premier point que j'évoquais tout à l'heure, différence d'attitude entre les civilisations en ce qui concerne leur goût pour les fleurs. À cet égard, il est incontestable que ce que l'on a appelé les religions végétalistes de l'Orient se sont traduites, je pense ici à l'Inde par exemple et au sud-est asiatique, par un goût très prononcé de l'ornementation florale. On pourrait parler, si vous voulez, de civilisation des guirlandes florales que vous allez trouver depuis l'Inde. Vous avez tout de suite, quand on évoque ces guirlandes florales, à l'esprit ces photos de décorations florales indiennes qui sont extraordinaires, mais que vous allez retrouver depuis l'Asie jusqu'à l'Océanie. En Polynésie, par exemple, le collier de fleurs est une partie essentielle de la vie sociale. C'est la façon de rendre hommage à la personne qu'on visite, et ainsi de suite. Donc vous voyez, je crois qu'il faut bien situer tout de suite ces différences. Mais ces différences ont eu tendance, avec les siècles, à s'estomper. En ce sens que on assiste, et on assiste, je crois, surtout depuis le siècle dernier, et très affirmé au cours de ce siècle, à une généralisation du goût pour la fleur ornementale. Alors là, évidemment, il va falloir maintenant rentrer dans l'histoire et voir comment ça s'est passé. Revenons un instant, si vous voulez, à ces civilisations végétalistes de l'Orient et du Proche-Orient, qui, nous en avons des témoignages chez les premiers naturalistes, avaient très tôt un goût prononcé pour les fleurs et un usage très important des fleurs à des fins notamment symboliques. Alors là, il y a un exemple qui vient tout de suite à l'esprit en pensant à la fois à l'Inde et à l'Égypte, ce sont les lotus, c'est-à-dire à la fois les nymphéas et les nélambium, que vous trouvez associés à la religion, au symbole de la divinité, au symbole de la pureté. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir parmi les premiers naturalistes de nos civilisations, disons, c'est des naturalistes de l'Antiquité, les premiers témoignages au sujet de ces fleurs exotiques de l'Orient. Alors, chez Hérodote, par exemple, il signale les lotus. Et à quoi les compare-t-il? Eh bien, spontanément, à la fois au lys et à la rose. Et voyez, tout de suite, nous avons, je pense, en faisant référence à l'Antiquité, nous voyons émerger deux fleurs qui, très tôt, prennent de l'importance dans nos civilisations, au niveau ornemental et au niveau symbolique. Peut-être faut-il commencer par la rose, parce qu'elle, tout de même, va réconforter un peu notre chauvinisme. Ça n'est pas entièrement une exotique. En gros, on peut dire que nous avons des traces historiques de la culture des roses en France très tôt, pratiquement, disons, depuis la période historique, et nettement développée dès le Moyen-Âge, dès le VIe siècle. Et là, alors, quelle est la première rose? La première rose est une rose qui est bien de chez nous, c'est la Rosa Gallica, c'est la rose de Provins. Mais cette rose de Provins, qui va faire l'objet d'une culture en France, notamment dès le Moyen-Âge, ne va pas constituer le seul stock de départ qui a pu permettre le développement de ce foisonnement de variétés de roses que nous connaissons aujourd'hui. Alors que s'est-il passé? Eh bien, un extraordinaire courant d'échanges multiples avec d'autres pays pour accroître, disons, la gamme des espèces de roses qui, ensuite, par l'hybridation, vont permettre ce foisonnement que j'évoquais des nouvelles variétés de roses. Parmi celles-ci, il faut évoquer tout de suite ce que les croisés ont ramené du Proche-Orient. Et c'est la rose de Damas, essentiellement. Et puis, au XVIIIe siècle, apparaît un autre apport de roses dans notre flore ornementale. Ce sont les roses de l'Orient, essentiellement les roses de l'Inde et de la Chine, roses de Chine, roses du Bengale, roses thé, roses musquées. Alors là, un aspect intéressant. Au XVIIIe, nous voyons très nettement apparaître le rôle des botanistes comme collecteurs de plantes ornementales qu'on envoie dans le pays d'origine. Il faut évoquer à cet égard la figure d'un grand botaniste anglais, Sir Joseph Banks, qui avait d'ailleurs contribué aux acquis botaniques des expéditions du capitaine Cook, et qui, en Orient, a récolté énormément de plantes ornementales, et nous avons même une rose de Banks, qui est une rose asiatique, qui est venue contribuer à ce stock.
Une rose seule, c'est toutes les roses, et celle-ci, l'irremplaçable, le parfait, le souple vocable encadré par le texte des choses. Comment jamais dire sans elle ce que furent nos espérances, et les tendres intermittences dans la partance continuelle. Rainer Maria Rilke.
Langage des fleurs.
Jonquille.
Je languis d'amour.
La botanique s'est affirmée comme une science qui ne peut pas se cultiver en cabinet, qui nécessite que l'on se rende sur le terrain. Et d'autre part, il était assez évident que cette exploration botanique du globe ne pouvait se faire qu'à partir du moment où les communications entre les continents et sur les océans étaient facilitées par la reconnaissance des grands itinéraires maritimes, par l'introduction de nouveaux moyens de navigation, par les progrès de la cartographie, etc. Soit, en gros, à partir du XVIe siècle. C'est à ce moment-là que naît la littérature botanique, proprement dite, et c'est à ce moment-là que sont entrepris les premiers grands répertoires botaniques du globe, le premier grand répertoire du règne végétal.
Yves Lessu, du Muséum d'Histoire Naturelle.
Tout ça est d'abord lié, la botanique n'est pas d'abord une science indépendante, tout ça est d'abord lié à l'art de guérir, à la médecine. Et les plantes que les botanistes vont rechercher et cultiver sont des plantes qui, en principe au moins, doivent trouver des applications botaniques, des simples, comme on avait dit dans la période précédente. C'est d'ailleurs à cette même période, vers l'extrême fin du XVIe siècle, que vont commencer à se multiplier en Europe, d'abord en Italie, puis en France et puis ailleurs, les jardins botaniques, qui sont presque toujours liés, placés à proximité de lieux, de facultés, d'universités où on enseigne la médecine. C'est le cas pour les jardins italiens qui sont les premiers, c'est le cas pour le premier jardin français qui est celui de Montpellier, lié à une université où l'enseignement de la médecine était prestigieux, et c'est le cas encore pour le jardin botanique de Paris, le jardin, ce que nous appelons aujourd'hui le jardin des plantes, le muséum d'histoire naturelle, qui a été fondé en 1635 et qui s'appelait à ce moment-là le jardin royal des plantes médicinales. Donc il y a là une idée qu'il faut bien comprendre au départ, l'enseignement de la botanique est lié à l'exercice de la médecine, à l'art de guérir. Et on peut se rappeler d'ailleurs que jusque assez avant, dans le XIXe siècle, la seule formation, la meilleure en tout cas pour devenir naturaliste, c'était de faire des études de médecine.
Sire, je propose à votre majesté la construction d'un jardin pour cultiver les plantes médicinales où votre peuple ait recours en ses infirmités, où les disciples de la médecine puissent apprendre et où ceux qui la professent s'adressent à leurs besoins. Guy de la Brosse, XVIIe siècle.
Peu à peu, cependant, la botanique va prendre une existence indépendante, et ce d'autant plus que le nombre des espèces connues en botanique va être en croissance extrêmement rapide dans le cours du XVIe et surtout du XVIIe siècle. Peut-être parce que les plantes sont moins nombreuses, beaucoup moins nombreuses dans le monde, les espèces botaniques sont moins nombreuses que les espèces zoologiques, peut-être aussi parce que leur transport et leur conservation en herbier est plus aisé que celle des espèces animales, peut-être enfin parce qu'il y a eu cette motivation médicale, ce moteur intellectuel qui a poussé les naturalistes à s'intéresser tôt au règne végétal. Pour toutes ces raisons, la botanique s'est trouvée en avance à la fois sur le plan méthodologique et sur le plan pratique. Et que beaucoup des voyageurs les plus connus au moins pour parler des Français, les pionniers dans ce domaine, qui ont marqué l'histoire des voyages de sciences naturelles, beaucoup de ces personnalités ont été d'abord des botanistes.
La botanique est l'art d'insulter les fleurs, en latin et en grec. Alphonse Karr.
Il est très rare, sous l'Ancien Régime, que les botanistes, les naturalistes qui ont voyagé en général, il est rare que ce soit des personnes qui se soient décidées de leur propre chef et qui aient assuré ces missions avec des moyens qui leur étaient purement personnels. La plupart de ces missions, au XVIIe siècle notamment, la bonne époque, alors c'est en gros le règne de Louis XIV, la plupart de ces missions sont voulues par le gouvernement royal. Il n'est pas rare d'ailleurs que le souverain lui-même, Louis XIV en l'occurrence, reçoive le voyageur qui va s'en aller. Ainsi, Tournefort, qui est l'un des pères de la botanique française, et en même temps un voyageur talentueux y compris le talent de raconter son voyage, Tournefort a été reçu par Louis XIV avant de partir. C'est une espèce de consécration du mérite. Le pouvoir royal a donc, pour des raisons de prestige ou des raisons que nous appellerions culturelles maintenant, le pouvoir royal ne dédaigne pas de s'intéresser à ces voyages. Il est d'ailleurs à remarquer, on peut d'ailleurs rappeler que tout au long encore du XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution, un grand nombre de ministres qui s'intéressent aux problèmes de sciences naturelles, un grand nombre de ministres ont été membres de l'Académie des sciences. Pas toujours des membres très actifs, on disait alors des membres honoraires, mais tout de même des membres qui étaient en proximité constante avec l'Académie et qui savaient très bien ce qu'on faisait à l'Académie des sciences. Il y a donc un rôle du gouvernement royal, il y a un rôle évidemment de l'émanation même du gouvernement royal sur le plan culturel, c'est l'Académie royale des sciences, devenue sous la Révolution la première classe de l'Institut de France, puis l'Académie des sciences que nous connaissons aujourd'hui, à partir de la date de sa création, en 1666, l'Académie royale des sciences, et jusqu'à nos jours, n'a pas cessé de s'intéresser à ces voyages, à des voyages d'ailleurs qui peuvent être à multiples usages, à plusieurs facettes, car on connaît déjà, dès l'Ancien Régime, des missions pluridisciplinaires. Ainsi, par exemple, au milieu du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV, quand l'Académie royale, à l'instigation du pouvoir royal, envoie une double mission en Laponie et sous l'Équateur pour mesurer un morceau de méridien et trancher une bonne fois la question de savoir si la Terre ressemble à un ballon de rugby ou bien, au contraire, à une mandarine, savoir si elle est sphérique ou si elle est aplatie au pôle, ou au contraire aplatie à l'équateur, eh bien, la mission qui s'en va dans la zone équatoriale, dans ce qu'on appelait alors le Pérou, qui couvre en gros le Pérou et l'Équateur aujourd'hui, cette mission, qui comporte un certain nombre d'académiciens, s'adjoint un botaniste qui va travailler là. Et c'est pendant cette mission, dirigée par la Condamine, c'est pendant cette mission qu'on va découvrir des plantes aussi importantes que le quinquina. C'est du moins la première fois qu'on observe le quinquina sur pied. Jusqu'alors, on faisait venir en Europe le quinquina sous des formes diverses, sous des formes d'extraits, mais on importait, si vous voulez, un produit déjà élaboré et préparé par les Indiens.
Alors, la quinquina a une histoire extraordinaire aussi parce que elle est à rebondissements multiples. On peut la raconter parce que ça se raconte vraiment comme un roman policier. D'abord, curieusement, le quinquina vient d'Amérique latine et ne vient pas avec le reste. Quand les conquistadors arrivent en Amérique latine, les Espagnols, ils ramènent l'or du Pérou, ils ramènent les trésors des Incas et des Aztèques, ils découvrent le peyote, des champignons hallucinogènes, ils ramènent la coca, bien sûr, qu'ils repèrent, mais pas le quinquina. Et 100 ans après la découverte, il n'y a toujours pas de quinquina. Ce qui est curieux pour une drogue aussi classique, enfin pour nous, quinquina est quelque chose de tout à fait banal, on pense à tous les apéritifs au quinquina, elle a mis plus de 150 ans à arriver. Et cette drogue est arrivée, semble-t-il, par les entreprises d'un prêtre qui s'appelle le père Calencha. C'est la première trace qu'on a dans l'histoire du quinquina, ça se localise en 1633, donc plus de 130 ans après la conquête. Et ce père Calancha aurait indiqué que les Indiens avaient un moyen de guérir la fièvre. Ça n'a pas non plus été prouvé de façon claire et on n'est pas absolument certain que les Indiens aient utilisé véritablement les écorces des vrais quinquinas. Ce qui est sûr, c'est que tous les peuples du monde ont toujours utilisé des écorces amères pour soigner la fièvre, pour des raisons liées à la théorie des signatures en particulier. Alors, quelques années plus tard, il y a eu un événement qui est le point de départ du quinquina. C'est que l'épouse du vice-roi du Pérou, qui s'appelle Del Chincon, qui était une comtesse, la célèbre comtesse Del Chincon, atteinte d'une fièvre tierce, c'est-à-dire d'un paludisme intense qui allait l'emporter, apparaît-il, était guérie en 1639 par cette fameuse écorce qu'elle aurait rapportée en Europe et qu'elle aurait ainsi divulguée en Espagne. Je dis « aurait » parce que d'autres textes disent qu'au contraire, elle est morte à Carthagène avant d'arriver en Espagne, et que d'autres textes encore, qui se reportent à son journal intime, prétendent qu'elle n'a jamais eu du tout de paludisme. Alors, très flou, mais ça reste très flou. Et ce qui est moins flou, c'est que les jésuites ont, eux, diffusé le quinquina. Alors ça, c'est tout à fait sûr. Les jésuites ont diffusé le quinquina en Europe, et notamment à Rome, et je ne sais plus très bien quel conclave a pu se targuer de n'avoir eu aucun mort, car à l'époque, les conclaves faisaient de gros dégâts, car les cardinaux qui arrivaient d'autres régions que de Rome attrapaient le paludisme et mouraient en cours de route. Bon, il n'y avait pas de mort à ce fameux conclave, parce que le cardinal Jean de Lugo, qui était le premier de tous les jésuites du monde, n'est-ce pas, avait donné à tous les cardinaux qui devaient élire le pape de la poudre de quinquina. Alors ça avait fait un tel effet que ça s'est su, et que le jeune Louis XIV, qui avait attrapé, lui, le paludisme, a été soigné et guéri par le dit cardinal en question. C'était donc un médicament catholique, ce qui fait que les Anglais, qui à cette époque n'étaient déjà plus catholiques, l'ont pris en horreur, et que Cromwell a tout fait pour qu'on ne lui donne pas de quinquina. Il est donc mort du paludisme, comme il se devait, puisqu'il a refusé, n'est-ce pas, le séditieux médicament qui, selon lui, devait, venant des jésuites, exterminer les protestants. Ce qui est une manière stupide de mourir pour des raisons très catholiques, ou pas très catholiques. Bon, et c'est pourtant, malgré les protestations des Anglais qui n'ont pas laissé rentrer le quinquina, un Anglais qui a fini par le vulgariser. Cet Anglais, c'était un apprenti apothicaire, il s'appelait Talbot ou Talbot, et qui est un petit gars, fort astucieux, et qui s'est fait une fantastique fortune avec ce médicament qu'il avait piqué aux jésuites, et qu'il avait d'ailleurs soigneusement gardé pour lui, qu'il n'avait pas divulgué du tout. Il avait gardé la formule, et puis il s'est dit, au fond, cette formule, non seulement je peux guérir les gens, moyennant un prix très élevé, ce qui faisait damner les médecins, lesquels faisaient obstinément des saignées qui ne servaient à rien, et lui est arrivé à soigner, alors il a soigné tout un tas de gens importants, et il a soigné des gens à la cour de France, et il a même réussi ce tour de force à vendre de son vivant et très cher son secret à Louis XIV, à charge pour celui-ci de ne le divulguer qu'après sa mort. Donc lorsque Talbot est mort, eh bien à ce moment-là, en 1681, il y a eu divulgation de son secret, et on a appris qu'en fait, c'était une écorce venant du Pérou, macérée dans du vin. En fait, c'était du vin de quinquina, qui était le médicament utilisé par ce charlatan. Alors, les médecins ont fini quand même par se laisser faire. Ils ont essayé et ils ont dû constater qu'en effet, il y avait là un remarquable médicament pour le paludisme qui faisait des dégâts énormes. Le paludisme, c'est une maladie qui faisait des millions et des millions de morts à l'époque, qui en fait encore des millions maintenant, d'ailleurs, entre parenthèses, dans certaines régions du monde. Alors la demande a augmenté, on a prescrit le quinquina partout, mais on ne savait pas ce que c'était que cette écorce. On n'avait pas repéré, elle venait par des chemins divers, et il arrivait souvent que l'écorce de quinquina n'était pas du tout ça, c'était une écorce de n'importe quoi, et que ça ne marchait pas. Et il a donc fallu qu'un jour, on se décide de savoir quelle était cette écorce. Alors Linné, le grand botaniste, lui avait bien donné un nom, il avait appelé Cinchona, en souvenir de la fameuse princesse dont nous parlons tout à l'heure, mais il n'avait pas de description précise. Et c'est une expédition française qui, en 1735, est partie pour l'Amérique du Sud avec un botaniste qui s'appelait Joseph de Jussieu et qui appartenait à une grande famille de botanistes, puisqu'il y a eu quatre grands de Jussieu au Jardin des Plantes à Paris, pour faire l'inventaire de la flore d'Amérique du Sud. Et il partait avec, d'ailleurs, des physiciens et des mathématiciens, notamment de la Contamine et Bouguer, qui devaient faire des calculs sur la distance entre deux méridiens terrestres à l'équateur. Alors ça, c'est aussi une histoire extraordinaire. Monsieur Bouguer et Monsieur de la Contamine se sont disputés pendant tout le voyage. C'était absolument intenable. L'ambiance était épouvantable. Dès qu'ils ont débarqué en Amérique du Sud, je crois, à Carthagène, dont je me souviens, Joseph de Jussieu est parti tout seul dans son coin pour ne plus les entendre et pour ne plus les voir. Il a circulé péniblement dans des conditions qu'on peut imaginer, n'est-ce pas, à cheval, dans la cordillère des Andes, et il a fini par repérer le quinquina. Il en a fait une description très fine, et puis, comme c'était un bon botaniste, il a voulu bien faire les choses, sans savoir que monsieur de la Contamine, travaillant tout à fait sur d'autres sujets, était passé aussi par là et avait fait une description très sommaire du quinquina. Il l'avait envoyé à Paris. De sorte que Jussieu s'est fait griller. Et que c'est la Contamine qui a donné la première description de l'arbre qu'il avait vu dans la cordillère des Andes. C'est un arbre très grand d'ailleurs. Pas très très grand, mais assez grand, qui ne pousse pas dans les forêts, mais qui pousse dans des forêts semi-ouvertes, assez claires. Alors Jussieu s'est fait ainsi, si je puis dire, ce qui est très embêtant pour un botaniste, piquer sa découverte. Et puis, il a pas de chance. Ce pauvre Jussieu n'a pas eu de chance du tout. Il avait beaucoup, beaucoup ramassé d'échantillons de plantes. Le jour où il a embarqué à Buenos Aires pour revenir en France, un Indien lui a tout pris, parce qu'il avait dit que ça valait beaucoup, beaucoup, que c'était très cher, que ça valait, c'était très précieux. L'autre n'a pas compris, il croyait que c'était de l'argent. Il lui a volé ses caisses, et Jussieu, désespéré, n'a pas pris son bateau. Il repartait dans la forêt où il est resté 10 ans, il est revenu à moitié fou, et il est mort, semble-t-il, sans avoir retrouvé sa raison, en revenant à Paris bien plus tard. Et puis on ne savait toujours pas rien sur le quinquina. Alors on a refait de nouvelles expéditions. Cette fois-ci, c'était les Espagnols qui ont agi, puisqu'ils étaient chez eux. Et on a créé un institut qui avait pour but, justement, d'essayer d'éclaircir le problème du quinquina. Et cet institut a été confié à un Espagnol qui s'appelait Celestino Mutis, et qui a fait preuve d'un mutisme absolu. Car il a travaillé pendant 40 ans sans rien publier du tout. Et ceux qui le payaient ont fini par dire, bon, enfin, c'est incroyable, depuis le temps qu'il travaille sur ces quinquina, ça fait des années, il ne publie rien. Et en 1793, il a réussi à publier un tout petit quelque chose, mais de rien du tout, qui n'en disait pas plus que ce qu'avait dit de la Contamine. Si bien que nous étions maintenant 250 ans après la découverte et qu'on ne savait toujours pas quel était l'arbre qui produisait le quinquina. Alors Mutis est mort, les Espagnols l'ont remplacé par un homme qui s'appelait Caldas, qui lui a remis un peu à jour les papiers de Mutis. Et alors c'est vraiment c'est terrible, parce qu'on a l'impression qu'une sorte de mauvais démon s'ingénie à embrouiller les pistes. Et ce Caldas, au moment où il va publier les résultats, prend le parti d'une rébellion contre l'Espagne, quitte les Espagnols, se retourne contre eux, se fait faire prisonnier et se fait exécuter. Et avant de mourir, il a dit, écoutez, mais ne me tuez pas, je vais quand même vous dire des choses. Non, 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 pas. Et ils l'ont tué. C'est bien qu'ils avaient tué, en quelque sorte, la graine qui pouvait porter un arbre. Et nous arrivons ainsi au début du siècle dernier, ce qui est effarant, et on ne sait toujours rien sur les quinquinas. Et ils continuent à arriver en Europe des écorces de quinquina, mais qui sont plus ou moins pures, plus ou moins falsifiées, enfin, en tout cas incertaines. Alors apparaît un personnage très sympathique et très éminent, qui est le baron Alexandre von Humboldt, qui est un Allemand. Et qui est le père de la botanique, il faut bien le dire, de l'Amérique du Sud. Jusque-là, les Espagnols, en gros, n'avaient presque rien fait. Ils s'intéressaient beaucoup plus à l'or et aux Indiens qu'à la botanique. Les Français, avec Dombey et Jussieu, avaient déjà fait un peu quelque chose. Mais c'est sûrement Humboldt, avec Bonpland, un Français d'ailleurs également, qui a fait l'essentiel du travail. Alors ce Humboldt est intéressant comme personnage, parce que c'est un botaniste influencé par Hegel et par Goethe, et qui a une vision très... très cosmique de la botanique. Vous avez tout à l'heure cité un de ces passages. Il pourfendait les misérables archivistes de la nature, disait-il, n'est-ce pas, ceux qui passent leur temps à ramasser les plantes pour les mettre en herbier et pour les regarder sèches comme les gens du Moyen-Âge. Il avait une vision dynamique, la vision goethéenne, la vision de la métamorphose des plantes, la vision de l'Urpflanze, vous avez le prototype ou l'archétype de la plante, la vision aussi d'une plante qui peut évoluer vers le monde animal, comme Aristote l'avait montré, dans sa fleur et dans ses relations avec les insectes. La plante commence à s'animaliser. Bon, il avait toutes ces vues qui n'étaient pas classiques à l'époque, qui ne le sont d'ailleurs pas plus aujourd'hui, quand moi je raconte ça dans mes cours, mes collègues parfois me regardent avec suspicion. Mais enfin, c'est une vision différente. Et son expédition de 5 ans en Amérique latine a apporté sur ce continent une connaissance fabuleuse. Bonpland, le botaniste, ramassait les plantes et faisait le travail de taupe. Il a ramassé un nombre fabuleux d'échantillons, je crois qu'il a ramassé 60 000 échantillons en 5 ans, c'est fabuleux. Il a permis de connaître un cinquième en plus des plantes connues jusqu'à l'époque. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça peut être, c'est absolument inouï. Ils ont travaillé, il est vrai, pendant 5 ans. Ils ont découvert 6000 espèces nouvelles, c'est énorme, à l'époque c'est gigantesque, ça a donné du travail à des générations de botanistes, et il a travaillé pour plusieurs pays, pas seulement pour le sien, ni pour la France, pour 4 ou 5 pays. Donc c'était une mission internationale, c'était la première grande mission internationale. Alors on lit avec beaucoup d'intérêt les comptes rendus de cette mission, il a trouvé l'arbre le plus gros du monde, à Santa Maria de Tulé, il a trouvé les mimosas géants, ce qu'il appelait les arbres de civilisation, comme le baobab en Afrique, ou bien comme le figuier du Bengale, ou le draconier aux Canaries, etc., des arbres très typiques, si vous voulez. Et il a aussi, alors, éclairci le problème du quinquennat. Et il a, d'une manière très fine, décrit les différents types de quinquennat, les arbres, leurs formes, de sorte que le problème était réglé, et qu'on s'est empressé, alors, d'extraire de ces écorces la substance active, la quinine. Et ceci, c'est le travail de 2 pharmaciens français, Pelletier et Caventou, qui ont d'ailleurs leur monument au boulevard Saint-Michel. En 1620, c'est le premier alcaloïde, la première substance qu'on extrait d'une plante. Et on donne raison alors à ce grand génie que fut Paracelse, qui disait, n'est-ce pas, les plantes ont des quintessences. Et c'est la quintessence qu'il faut saisir pour que la plante puisse être utilisée avec efficacité dans les maladies pour lesquelles elle est faite. Car avant, on pensait que toutes les plantes soignaient tout. À partir de là, on arrive à la spécificité du médicament. C'est telle plante sert d'abord à telle maladie. Alors cette quinine, maintenant qu'on sait l'extraire, on va essayer naturellement de cultiver le quinquennat pour pouvoir l'extraire avec efficacité. Alors les Anglais et les Hollandais, compagnie des Indes anglaises, compagnie des Indes néerlandaises, se mettent en compétition. Et chacun va cultiver sur son territoire. Les Anglais cultivent une espèce qui est le quinquennat rouge en Inde, et les Hollandais cultivent une autre espèce, quelqu'un qui n'a jaune, en Indonésie. Échec total, échec absolu. Le quinquennat s'acharne à produire des échecs, nouvel échec, parce que on s'aperçoit que dans ces écorces-là, il n'y a presque pas de quinine. Et qu'il y en a en tout cas beaucoup moins que dans les échantillons qui viennent d'Amérique latine. Alors c'est le désespoir, parce qu'on avait vu grand, qu'on avait consommé, qu'on avait cultivé sur des surfaces énormes. Et il faut arracher les plantations. Alors là intervient un personnage anglais qui s'appelle Ledger et qui est exportateur de laine sur les bords du lac Titicaca. Et il apprend par un de ses Indiens qu'il y aurait un quinquennat qu'on ne connaît pas encore et qui serait bien meilleur que les autres. Mais que cet Indien n'a pas le droit de lui dire où il se trouve parce que c'est un secret de sa tribu et que s'il le disait, il se ferait tuer. Bon, Ledger commence à faire ce qu'il faut pour que l'Indien Manuel lui parle. Et effectivement, un jour, Manuel arrive et apporte à notre très sympathique Ledger en cadeau un lot de semences de ce quinquennat-là. Alors Ledger envoie ce quinquennat à Londres, au gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, pour qu'on le cultive et pour qu'on vérifie sa richesse en quinine. Et le gouvernement rate son coup, ça n'intéresse personne. Sauf les Hollandais qui ont eu vent de l'affaire par Dieu sait quel biais, parce qu'ils sont très forts les Hollandais. Alors là, extrêmement doués, ils connaissent tous les coups. C'est pas, ils ont des oreilles partout, des antennes partout, des espions partout, ils savent tout. Et ils achètent pour rien les graines de Ledger. Et ils les cultivent à Java, et ils obtiennent au bout de 10 ans le monopole international de la quinine. Parce que ce quinquennat-là produit effectivement 13% de quinine dans ses écorces, ce qui est énorme. Et très très vite, les Hollandais ont vraiment le monopole. Ce qui produit d'ailleurs des catastrophes en période de guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, Java étant envahi par les Japonais, c'est la catastrophe absolue, il n'y a plus de quinine nulle part. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à fabriquer des produits de synthèse, la nifaquine, la chloroquine, la primaquine, etc., qui sont des analogues de la quinine, de synthèse, mais dont on s'aperçoit que souvent, les agents responsables du paludisme deviennent assez rapidement résistants. De sorte que la quinine a gardé quand même beaucoup d'intérêt, non seulement théorique par toute cette longue histoire, n'est-ce pas, et comme étant le chef de famille de ces produits de synthèse qui sont copiés sur son modèle chimique, sur sa structure chimique, mais garde aussi un intérêt thérapeutique très important. Alors vous voyez que dans une histoire comme le quinquennat, on voit à la fois des hommes passionnés, comme de Jussieu, comme Humboldt, de grands explorateurs. Il faut avoir connu, moi je l'ai vécu ça, cette espèce vraiment d'extase lorsqu'on découvre la nature tropicale et qu'on est botaniste pour la première fois. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Une première fois, c'était dans un pays qui maintenant est hélas célèbre, et dans une région célèbre de ce pays, c'est le Nouristan en Afghanistan, où j'ai été, je crois, un des tout premiers botanistes à mettre les pieds, sur les confins de l'Himalaya et aussi de vallées qui descendent vers les Indes, par conséquent une région où la flore est mixte entre des climats très très différents. Et dans ces villages perdus au fin fond de ces montagnes du Nouristan, avec des populations extrêmement attachantes, ben, j'ai découvert pas mal d'espèces qui étaient encore pas très connues. Certaines n'étaient pas connues encore. Puis après ça, j'ai découvert la flore tropicale d'abord aux Canaries, puis en Afrique, et c'est chaque fois, effectivement, un ravissement. Et je sens très très bien, enfin, les expressions, les senteurs, l'extase et l'enthousiasme de ces grands botanistes qui, pour la première fois, découvraient une nature que l'Europe ne connaissait pas encore du tout. Et c'est toute leur histoire. Alors, le but est utilitaire, mais il est aussi esthétique. Parce qu'il y a aussi les apports d'orchidées, les apports de fleurs. On ne peut pas imaginer du tout, d'ailleurs, ce qu'était l'Europe avant tout ça, n'est-ce pas ? Il est difficile d'imaginer comment était l'Europe, disons, au XVIe siècle. Tellement nous avons de plantes venant d'ailleurs.
Au pied du Tède et sous la garde du plus grand dragonnier du monde, la vallée de la Rotava reflète dans un ciel de perles tout le trésor de la vie végétale et part autrement entre les contrées. L'arbre immense qui plonge ses racines dans la préhistoire lance dans le jour que l'apparition de l'homme n'a pas encore sali son fût irréprochable qui éclate brusquement en fûts obliques selon un rayonnement parfaitement régulier. J'aime que ce soit le dragonnier, dans son immobilité parfaite, le dragonnier faussement endormi, qui se tienne au seuil du palais de feuillage qu'est le jardin climatologique de la Rotava, prêt à défendre la réalité éternelle de tous les contes, cette princesse folle de palmes. Elle glisse, ou bien c'est toi qui glisses près de moi, le long des allées enveilleuses. André Breton, L'amour fou.
Mes sentiments sont purs.
D'où nous vient Lys ? Eh bien, du Proche-Orient, essentiellement, et lui aussi, selon toute vraisemblance, ramené par les croisés. Mais ce Lys du Proche-Orient, issu, disons, des expéditions des croisades, ne va pas être, bien entendu, le seul Lys ornemental de nos jardins. Il faut tenir compte de toutes les autres formes, Lys tigré et autres, qui existent aussi dans ces jardins. Eh bien, beaucoup d'entre eux sont venus de l'Asie, et notamment du Japon. Voyez, là encore, un élément de départ accidentel, et ensuite d'autres espèces ramenées, en règle générale, par des botanistes en quête de nouvelles fleurs, comme j'évoquais tout à l'heure. On pourrait bien entendu étendre à l'infini l'énumération. Que choisir parmi les fleurs ? Il fallait bien entendu parler d'abord du lys et de la rose, mais il y a tellement d'autres fleurs qu'on ne sait que choisir. Prenons-en un autre exemple, la tulipe. Eh bien, la tulipe, nous connaissons des tulipes spontanées dans la flore française. On peut, par exemple, moi j'en ai récolté de fort jolies dans les montagnes de Provence, où il y a quelques jolis peuplements d'une tulipe jaune rustique qui, au printemps, au premier printemps, couvre les champs de ses fleurs jaunes. Mais pour l'essentiel, les tulipes qui ont permis le développement de cette multitude de variétés que nous connaissons aujourd'hui viennent du Proche-Orient. Là, deux botanistes, très tôt, ont joué un rôle dans le goût pour la tulipe qui va s'instituer en Europe. L'un d'entre eux est le Suisse Konrad Jessner, et l'autre, et là, bien entendu, encore un peu de chauvinisme, c'est Charles de Lescluze, qui, au XVIe siècle, a été un des botanistes collectionneurs les plus célèbres en France. En fait, on peut considérer que Charles de Lescluze est un peu, si vous voulez, l'un des pères de ce jardin des plantes où nous sommes aujourd'hui. Et Charles de Lescluze obtint des semences de tulipes en provenance de Turquie, via l'Autriche. Mais l'aire d'origine de nos tulipes ornementales est plus vaste que la seule Turquie. En fait, elle s'étend jusqu'à l'Iran, et c'est probablement cette partie du monde qui nous a fourni la plupart de nos tulipes.
Langage des fleurs.
Églantine.
Les jours heureux passent trop vite.
Un autre exemple, qui aujourd'hui est une fleur... très commune chez nos fleuristes, c'est le glaïeul. Eh bien, nous avons bien entendu des glaïeuls rustiques dans les fleurs européennes, mais là encore, le foisonnement des variétés ornementales a été dû à des apports de glaïeuls exotiques, et notamment de glaïeuls en provenance d'Afrique australe. Et c'est par l'hybridation qu'on a obtenu cette extraordinaire diversité des glaïeuls ornementaux.
Asphodèle.
Mon cœur est désolé.
Un mot quand même de plantes qui maintenant suscite un grand intérêt, les orchidées. Alors là, pour les orchidées, bien entendu, présence en France d'une gamme assez étendue d'orchidées locales, certaines fort belles, mais disons qui n'ont pas d'étonnantes formes et d'étonnantes couleurs comme les orchidées exotiques. On connaissait donc bien en France les orchidées, en Europe les orchidées des fleurs locales, mais la grande découverte, ça a été la découverte des orchidées tropicales. Et notamment, je crois que le goût pour l'orchidée exotique s'affirme très nettement après la découverte du Nouveau Monde, quand les premiers naturalistes espagnols vont découvrir au Mexique les premières grandes orchidées tropicales, et ça va être le début de ce goût pour cette fleur un peu vénéneuse, extrêmement curieuse de forme et surtout avec des couleurs extraordinaires, qui va provoquer cette multiplication des collectionneurs d'orchidées. Il suffit de visiter notre serre à orchidées du Jardin des Plantes pour voir à quel point de diversité on est arrivé actuellement dans la gamme des orchidées ornementales. Rappelons au passage que les orchidées ne sont pas seulement que des plantes ornementales, ce sont des plantes qui fournissent, on l'oublie trop souvent, des aliments. Et notamment, c'était le cas des orchidées de la flore européenne, et notamment des orchis. Les orchis ont deux petits tubercules, évoquant, il faut le dire, les testicules, d'où le nom de la plante. Et on extrayait de ces tubercules, je dirais une sorte d'amidon, c'est pas tout à fait un amidon, qu'on appelait le salep, et qui était vendu en pharmacie, bien entendu, comme aliment roboratif, considéré comme un aphrodisiaque. On connaît en région exotique des orchidées qui fournissent des fibres colorées, c'est le cas en Nouvelle-Guinée notamment, dont on fait des bracelets rituels. Et puis, il ne faut pas oublier, quand même, une orchidée dont tout le monde se sert, dont la fleur n'est pas particulièrement attrayante, c'est la vanille. Vanille qui est une américaine aussi, et là encore nous trouvons l'importance de la découverte du Nouveau Monde dans la multiplication de nos plantes ornementales. Et puisqu'on vient d'évoquer l'Amérique, on va peut-être terminer cette énumération avec une plante que personnellement je déteste, c'est l'hortensia. Enfin, j'aime pas l'hortensia, c'est mon droit, mais enfin les hortensias un peu lourdingues, teints en bleu, ça me gêne. Mais eh bien là, l'hortensia, on a affaire alors à l'exotique vrai. Les premiers hortensias qui ont été cultivés en Europe sont très vraisemblablement des hortensias originaires de l'Amérique du Nord. Alors là, il y a un petit problème de nom. Pourquoi le nom de genre hortensia? On n'est pas tout à fait d'accord. On doit le nom à un botaniste, Commerson, et selon les uns, il aurait dédié le nom de genre à Hortense de Beauharnais, selon d'autres, à la princesse Hortense de Nassau, et selon d'autres encore, plus prosaïques, à Hortense Le Pote, femme d'un horloger. Je vous laisse le soin de choisir. Il y aurait d'ailleurs une émission à faire sur le nom des fleurs et sur, disons, l'ethnobotanique de la nomenclature botanique. Elle est quelquefois extrêmement réjouissante. En fait, il y a eu un deuxième apport qui a été l'apport des hydrangeas, c'est le nom qu'on donne maintenant aux hortensias, des hydrangeas, originaires de Chine et du Japon, qui ont permis effectivement ces formes quasiment monstrueuses que l'on cultive aujourd'hui.
Dahlia.
Mon cœur déborde de joie.
En vain, j'avais coupé toutes les fleurs du monde. Elles sont affanées à terre devant toi, sans eau ni rime. Aragon.
Verveine.
Je voudrais vous parler en secret.
En général, sous l'Ancien Régime, celui qui va chercher les plantes est un amateur passionné et quelqu'un qui s'est formé, le plus souvent d'ailleurs avant de partir à Paris au Jardin du Roi, mais ça n'est pas un grand naturaliste. Puisque vous parlez encore une fois de grandes figures, de grands noms, des noms que le public connaît bien, le nom de Buffon, le nom des Jussieu, tous ces gens-là, qui ont été les plus grands botanistes de leur temps, n'ont jamais quitté leur cabinet ou peu s'en faut. Il y a donc des voyageurs qui partent en groupe, et alors, dans cette famille, il y a à citer tous ceux qui ont participé à ces grandes navigations qui ont commencé au milieu du XVIIIe siècle avec le voyage de Bougainville sur la Boudeuse, l'homme qui a découvert la nouvelle Citerre, Tahiti, et qui se sont, ces voyages, qui se sont poursuivis jusque vers 1850. Dans tous ces grands voyages, dont le parrainage, si vous voulez, est assuré encore une fois par le gouvernement, par l'institut qui rédige des instructions, par le muséum et avant lui le Jardin du Roi, il y a des équipages scientifiques, et dans ces équipages scientifiques, il y a des botanistes. On se rend très bien compte que pour les professeurs du jardin, l'homme qui va être le plus important dans ces voyages, c'est moins quelquefois le botaniste qui va étudier les plantes, essayer d'enrichir le catalogue du règne végétal, les espèces connues, que le jardinier. Et pourquoi ? Parce que le jardinier, c'est l'homme qui récolte avec un souci utilitaire. Et c'est lui en particulier qui sera chargé de maintenir en vie pendant tout le voyage et de rapporter en vie, si possible, un certain nombre de plantes. Quand on sait l'importance qu'ont joué à partir du XVIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle, certaines plantes, les épices, pour ne citer qu'elles, qui représentaient un intérêt économique évident, sans parler des autres intérêts, eh bien, on se rend compte que les jardiniers ont été des gens extrêmement importants. Tous ces gens se sont donc perfectionnés dans l'art de conserver des plantes vivantes, des plantes utiles, et alors, pour se limiter au rôle joué par la France, on voit peu à peu ces plantes dites utiles, dont la naturalisation est un souci constant du gouvernement et des autorités scientifiques, on voit ces plantes utiles se promener. Celles qui viennent d'Extrême-Orient marquent une pause aux îles Mascareignes, où la France a des bases, l'île de France, qui est aujourd'hui l'île Maurice, l'île Bourbon, qui est devenue la Réunion, marquent une pause là. Ensuite, Elle marque une nouvelle pause à Paris, au Jardin du Roi, où on se livre à des travaux d'acclimatation importants. Et puis, de là, on les renvoie vers les Indes occidentales, c'est-à-dire vers les Antilles et vers la Guyane. Il y a une espèce de petit ballet botanique qui se livre comme ça, et on voit les espèces utiles, non seulement les grandes épices, par exemple la girofle ou la muscade, dont la conquête est une véritable aventure, que on a dérobé en cachette aux Hollandais, qui en gardaient sévèrement le monopole, parce que ça représentait évidemment pour eux beaucoup d'argent, le trafic de ces épices. Non seulement toutes ces plantes, mais beaucoup d'autres encore. Et alors, vers la fin du XVIIIe siècle, s'établit même une sorte de rivalité entre les plantations de Cayenne ou celles de l'île Maurice. Toutes ces plantes se répandent, avec toujours, enfin presque toujours du moins, un rôle important du jardin du roi, du muséum, qui est une étape. Ici, dans les premières serres du jardin, par exemple, on a fait des essais répétés qui ont abouti à ceci, qu'on a réussi à retarder ou à avancer la floraison de certaines espèces végétales, décoratives ou utiles, de telle façon que on puisse concilier la culture de ces espèces avec un climat qui n'était pas celui pour lequel elles étaient nées.
L'arbre à pin produit pendant 8 mois de l'année des fruits qui mûrissent les uns après les autres. Ils fournissent ainsi journellement aux insulaires une nourriture aussi saine qu'abondante. Ces fruits du vrai arbre à pin sont d'une forme à peu près ovale, long de 3 décimètres sur 2 d'épaisseur. Tout est mangeable, excepté la pellicule extrêmement mince dont ils sont couverts. Nous en mangions avec plaisir et nous renonçâmes sans regret à notre biscuit et même à la petite portion de pain frais qu'il était dans l'usage de nous distribuer chaque jour. Notre cuisinier nous les servait ordinairement cuits dans l'eau, quoique pourtant ils eussent été bien meilleurs s'ils avaient eu la précaution de les faire cuire au four. Jacques Julien, La Billardière, XVIIIe siècle.
Dans le jardin des plantes même aujourd'hui, un certain nombre d'arbres sont encore le témoignage de la rareté de certaines espèces et de l'importance qu'on y attachait. Quand on se promène dans le jardin, on rencontre un des plus vieux arbres de Paris, par exemple le robinier, le faux acacia, qui est un arbre qui a subi bien des malheurs, au moins le pied qui est ici, qui ne tient plus qu'avec des béquilles, mais qui a été planté là en 1635. C'est un arbre américain qui a été introduit en France par le père d'un des premiers jardiniers qui s'appelait Robin, d'où le nom de cet arbre.
Je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras désespérés, semblant me dire « Ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui, tu ne le sauras jamais. Si tu nous laisses retomber au fond de ce chemin d'où nous cherchions à nous hisser jusqu'à toi, toute une partie de toi-même, que nous t'apportions tombera pour jamais au néant. » Marcel Proust.
Il y a le sophora du Japon planté sur des graines envoyées par un jésuite de Chine au XVIIIe siècle, le père d'Incarville. Ou encore, du côté du bassin aux Phoques, où les gens aiment bien se promener les jours de congé scolaire ou le dimanche, on voit le ginkgo biloba, qui est un arbre extrêmement curieux, un arbre de la Chine et du Japon, qu'on appelait au début du XVIIe siècle l'arbre aux 40 écus, parce qu'il fallait payer des sommes astronomiques pour se procurer un plant de cet arbre.
L'arbre de la liberté serait-il le seul qui ne pût pas être naturalisé au jardin des plantes? La canale.
Tout ça, c'est le témoignage de ces espèces qui aujourd'hui sont vulgarisés, qui nous paraissent avoir toujours fait partie du décor végétal qui nous entoure, mais qui en réalité sont venus de très loin.
Au pied du Ted et sous la garde du plus grand dragonnier du monde, la vallée de la Rotava reflète dans un ciel de perles tout le trésor de la vie végétale et part autrement entre les contrées. L'arbre immense qui plonge ses racines dans la préhistoire lance dans le jour que l'apparition de l'homme n'a pas encore sali son fût irréprochable, qui éclate brusquement en fûts obliques selon un rayonnement parfaitement régulier. J'aime que ce soit le dragonnier, dans son immobilité parfaite, le dragonnier faussement endormi, qui se tienne au seuil du palais de feuillage qu'est le jardin climatologique de la Rotava, prête à défendre la réalité éternelle de tous les contes, cette princesse folle de palme. Elle glisse, ou bien c'est toi qui glisses près de moi, le long des allées enveilleuses. André Breton, L'amour fou. Nous ne sommes que des arbres, après tout. Antonin Artaud.
Un jour, les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui régnerait sur eux. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi !» L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui rend honneur aux dieux et aux hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors, les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, sois notre roi !» Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous !» La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Tous les arbres dirent alors au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi !» Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous moigniez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines. » Et il dévorera les cèdres du Liban. La Bible, le livre des juges.
Tous ces voyages ne se font pas sans risque. D'abord parce que les moyens matériels sont extrêmement sommaires, que ces gens qui sont des Européens s'embarquent sans toujours beaucoup d'expérience de ce qu'ils vont trouver et s'embarquent pour des durées qui sont assez illimitées. Dans leur esprit même au départ, la plupart de ces missions ont duré plusieurs années. Beaucoup de ces voyageurs, botanistes d'ailleurs, ne sont pas revenus ou sont revenus dans un tel état que leur mort a succédé bientôt à leur retour. Et évidemment, ce qui vaut pour les voyageurs vaut aussi pour les collections qu'ils avaient ramassées, qu'ils ont laissées sur place, dont beaucoup ont été perdues. Il y a des voyages individuels qui sont très mouvementés. Il y a même des voyages collectifs qui le sont également. Et ça n'est pas toujours la faute, ou ça n'est pas toujours du fait, ni de la nature elle-même, ni même des botanistes en voyage. C'est le fait de toutes sortes de circonstances. Il y a un exemple bien connu et assez célèbre, c'est par exemple le voyage de découverte mené par D'Entrecasteaux, et parti en 1791. D'Entrecasteaux part avec un équipage scientifique, en 1791, et suit l'itinéraire habituel, c'est-à-dire que, ayant d'abord franchi l'Atlantique Sud dans le sens est-ouest pour profiter des vents, il va toucher sur la côte sud-américaine, et puis il profite des alizés dans l'autre sens sous l'équateur pour doubler le cap de Bonne-Espérance et entrer dans l'océan Indien. Ce voyage se poursuit, les naturalistes qui sont à bord font des travaux, leur nombre d'abord commence à diminuer parce qu'il y a des malades, et puis il arrive des péripéties sur lesquelles on ne pouvait absolument pas compter. Lesquelles péripéties? Sont les événements politiques qui agitent la France révolutionnaire de l'époque. En arrivant aux Indes néerlandaises, la flotte de d'Entrecasteaux qui bat pavillon blanc fleur-de-lysée, apprend que la République est proclamée et qu'il n'y a plus de roi en France. Alors à ce moment-là, une grande querelle éclate entre les Français. Il y a d'un côté, en gros, les officiers de la marine royale, qui constituent une caste très fermée, et qui, eux, évidemment, prennent fait et cause pour le pavillon à fleur de lys, pour le régime monarchique, et qui préfèrent livrer, interner leurs bateaux en territoire hollandais plutôt que d'arborer le pavillon tricolore et de devenir les marins de la République. Et en face, il y a un certain nombre d'autres, et notamment, il y a tous les intellectuels du bord, ce sont les savants, qu'ils soient zoologues ou botanistes. Et ces pauvres gens, non seulement sont mis à terre par les officiers qui ne veulent plus continuer, le chef de l'expédition d'ailleurs est mort entre-temps, les naturalistes sont internés chez les Hollandais, un certain nombre d'entre eux vont être captifs pendant plusieurs mois, certains mourront sur place, quand ils peuvent faire expédier leur collection ils vont devoir organiser des retours catastrophiques. La plupart d'entre eux devront rentrer d'un côté pendant que leurs caisses de collection rentrent de l'autre. Ces caisses, et notamment les caisses de botanique, sont pour la plupart arrêtées en route sur le bateau hollandais qui les ramenait par un corsaire anglais qui s'en empare, et les caisses qui étaient destinées à la France se retrouvent en Angleterre. Et les caisses de botanique de ce voyage, enfin l'essentiel des collections de botanique de ce voyage, ne retrouvera la France que grâce à l'intervention d'un savant britannique qui a joué à cette époque un très grand rôle, et un rôle extrêmement sympathique, faisant passer l'international de la science avant les querelles nationales, qui s'appelait Sir Joseph Banks. C'est grâce à ce savant britannique que les collections ne viendront en France, mais bien des années après, dans les années 1805 ou 6. Alors, il y a les collections qui se perdent, corps et bien, avec le navire qui les rapportait. Un botaniste français qui est parti dans les années 75-80 en Amérique du Sud, qui s'appelait Joseph Dombey, a obtenu l'autorisation du gouvernement espagnol d'aller faire des recherches botaniques sur les terres du roi d'Espagne en Amérique du Sud. D'abord, on lui adjoint un certain nombre de naturalistes espagnols qui l'accompagnent et qui le surveillent du coin de l'œil. Et puis, il est convenu que les collections ramassées seront partagées également entre le roi d'Espagne et le roi de France. Manque de chance, les collections envoyées par Joseph Dombey sur un bateau, avant son propre retour, il se décide, comme on faisait souvent, à faire des envois multiples pour multiplier les chances. Ce bateau est capturé par les Anglais et les collections ramassées sont vendues aux enchères. Sont vendues aux enchères au Portugal. Et il ne reste donc plus, en gros, que l'autre moitié des collections sur lesquelles les Espagnols font valoir leurs droits. Et finalement, les fruits de ce voyage seront des plus réduits à cause de circonstances comme celle-ci. Naufrages, rivalités politiques, lutte sur les mers, etc. Le nombre des caisses de collections ramassées sur tous les continents et dans toutes les îles qui se sont perdues est prodigieux.
Ces grands botanistes explorateurs ont toujours été très près des rois d'ailleurs, et très encouragés par les rois qui s'intéressaient beaucoup à ce côté exotique de leurs travaux. Ils étaient liés d'ailleurs aux ambassades des rois. C'était l'époque où les ambassades étaient des événements, n'est-ce pas? Quand on envoyait un ambassadeur à la Sublime Porte, c'était un grand événement, c'était une caravane, on organisait les choses à longue distance et à longue portée, et on y mettait des scientifiques, des botanistes, etc., des hommes de lettres, tout à fait différent de ce qu'est une ambassade aujourd'hui. avec nos moyens de communication. Pierre Belon, c'est un des tout premiers. C'est le premier qu'on cite traditionnellement. Je crois que Belon, je me souviens, a dû naître en 1515 ou 1517. Enfin, je le situe à peu près à Marignan, ça doit être à très peu de choses près cela, parce qu'il faisait partie de la cour de François Ier. Alors, Belon a été un botaniste qui a appris sa botanique en Allemagne, curieusement, à Wittenberg. Il a connu Luther, bien qu'étant le protégé d'un évêque qui était l'évêque du Mans. Et il a été au Proche-Orient. Alors, il a eu un voyage extraordinaire, son bateau a coulé plusieurs fois. Enfin, tous les botanistes voyageurs, c'était la même chose. Enfin, on se demande toujours comment ils en sont revenus. Que vous les preniez tous les uns après les autres, ça a toujours été des expéditions extraordinaires avec des avatars fantastiques. Et il a ramené, effectivement, du Proche-Orient un certain nombre de plantes, notamment le platane. Le platane qu'il a observé dans l'île de Kos, où Hippocrate, le père de la médecine, avait enseigné, qui était la terre d'Hippocrate. Et ce platane a ensuite été, comme chacun sait, abondamment transplanté dans nos régions d'Europe de l'Ouest. Et il savait d'ailleurs, Belon, que ce platane était abondant en Asie. Et il s'étonnait qu'il n'ait pas pénétré en Europe. Et c'est lui qui l'a fait pénétrer. Il me semble qu'il a dû le planter pour la première fois dans l'Ouest. Je ne sais plus si c'était au Mans ou à quelque part par là. Je n'ai plus ça en son mémoire. Il parlait d'ailleurs d'apprivoiser les plantes. Il ne parlait pas d'acclimater à l'époque. Il disait « j'ai apprivoisé le platane ». Enfin, il a tellement bien apprivoisé les plantes qu'il s'est fait assassiner dans le bois de Boulogne, ce qui est une fin un peu tragique, à l'âge de 47 ans, sans qu'on ait jamais su exactement pourquoi, mais on a pu dire de lui qu'il avait ramené aussi d'autres types de secrets d'Orient, et par conséquent, il était suspect de savoir peut-être autre chose.
Ortie.
Votre méchanceté me navre.
Je sais bien mieux que toi ce que tu veux. Nous allons faire démolir toutes les pendules et interdire tous les calendriers. Nous compterons les heures et les mois d'après la seule horloge des fleurs, des boutons et des fruits. Puis, nous ferons entourer notre petit pays de miroirs ardents afin qu'il n'y ait plus d'hiver et que nous puissions nous distiller en été jusqu'à Ischia et Capri, et que nous nous cachions toute l'année parmi les violettes et les roses, les orangers et les lauriers. Georg Büchner, Léonce et Léna.
Il est bien difficile de savoir quand une plante est ornementale ou qu'elle ne l'est pas. C'est-à-dire que le regard qu'une civilisation va porter sur un végétal, regard, disons, profondément inscrit dans sa culture, va changer le statut de cette plante dans la flore domestique. Alors là, une petite anecdote à propos d'une plante que nous connaissons tous aujourd'hui, le caféier, ne serait-ce que pour notre café matinal. Caféier, d'ailleurs, dont il faut parler, puisque la première serre créée dans ce jardin des plantes l'a été pour abriter les premiers caféiers d'Arabie, puisque ce muséum d'histoire naturelle et ce jardin des plantes ont joué un rôle majeur dans la distribution du café à travers le monde. Il faut se souvenir que les premières souches de caféiers d'Arabie qui ont été envoyées dans le Nouveau Monde et dont sont issus les caféiers du Brésil notamment et leur énorme production ont transité par le Jardin des Plantes de Paris, transportée d'abord aux Antilles et ensuite passée en Amérique du Sud. Eh bien, les caféiers, évidemment, nous connaissons en France le grain de café, mais ce grain de café rôti n'évoque guère la beauté de l'arbre. Cette plante de la famille des rubiacées se caractérise par des bouquets de fleurs blanches extrêmement odorantes à l'aisselle des feuilles, ce qui fait que certaines variétés de caféiers pourraient être véritablement des plantes ornementales avec ces superbes fleurs blanches extrêmement odorantes. Et alors là, j'ai une expérience qui illustre le propos que je tenais tout à l'heure. Dans une île du Pacifique de la Polynésie, on avait, il y a un certain nombre d'années, lancé un programme ambitieux de développement agricole et fondé sur la mise en culture de caféiers, notamment de caféiers qu'on appelle le Robusta, en fait c'est le Coffea canephora. Alors on a fait planter à ces braves Polynésiens d'assez grandes étendues de caféiers. Les caféiers sont arrivés à maturité et à l'étonnement des agronomes qui de Paris suivaient l'exécution du plan, la production de café était inexistante en dépit des surfaces plantées. Or je me trouvais à ce moment-là dans cette île. Je venais d'y arriver et intrigué par le fait qu'on semblait ne pas récolter les grains de café, je me suis porté de ma personne, comme on dit dans les règlements de gendarmes, dans les plantations. Et alors là, j'ai assisté à une scène touchante. C'était des jeunes filles polynésiennes qui enlevaient très très soigneusement toutes les fleurs de caféier pour en faire des guirlandes et les mettre autour de leur cou. Et elles m'ont dit, mais ça sent si bon. Alors évidemment, là il y avait un choix fondamental, c'était ou la fleur ou le fruit, et elle préférait nettement les fleurs.
Mimosa.
Personne ne sait que je vous aime.
Bon ben, allons-y, les mimosas. Hein, bon, Côte d'Azur, mimosa, bon très bien, pas de mimosa. Pas de mimosa, les mimosas viennent tous d'ailleurs. Les vrais mimosas viennent tous d'Australie, et puis des plantes qui ressemblent aux mimosas, il y en a pas mal à la Côte d'Azur, mais qui sont des mimosées et pas des mimosas, viennent de partout, mais en tout cas pas de la Côte d'Azur. Bon, les eucalyptus, qui donnent leur odeur à bien des régions de la Côte d'Azur, viennent également d'Australie. C'est-à-dire d'ailleurs d'une région où le climat est assez semblable à celui de la Côte d'Azur, car il y a toujours des analogies de climat. Les palmiers, pas un seul palmier à la Côte d'Azur, pas un seul palmier. D'ailleurs, jusqu'il y a 2 siècles, il n'existait à la Côte d'Azur qu'un seul palmier, qui s'appelle le Petit Camérops, et qui n'avait qu'un mètre de haut, et qui ne poussait que dans la région niçoise, qui est, comme vous le savez peut-être, entre Nice et Menton, la région la plus chaude du bassin méditerranéen nord. Alors, ce palmier y a disparu dans ses gîtes spontanées, complètement, il n'existe plus maintenant qu'au sud de la Méditerranée, notamment au Maroc, et en Afrique du Nord, de sorte qu'on peut dire qu'à la Côte d'Azur, il n'y avait pas un seul palmier, et que tous les palmiers de la Côte d'Azur viennent tous d'ailleurs. Beaucoup des Canaries, beaucoup du Mexique, beaucoup d'Amérique, beaucoup d'Extrême-Orient, en tout cas aucun de là. Bon, continuons. Les agaves, espèces de puissantes plantes à feuilles allongées, très, très charnues, très piquantes, qui poussent sur les talus de chemin de fer, et qui font des espèces de poteaux électriques bizarres quand ils font des fleurs, lesquelles d'ailleurs font périr la plante, car ce sont des plantes monocarpiques. Ces plantes ne font des fleurs qu'une seule fois et en meurent. Donc, de sorte que la plante mère donne sa vie pour ses petits. C'est très émouvant et très beau, c'est très symbolique. Ben, ces agaves viennent tous du Mexique. Les aloès, qui ressemblent à des agaves, mais qui, cette fois-ci, ne font pas des hampes comme des poteaux électriques, mais font des hampes un peu plus modestes, avec des petites fleurs en cloche, qu'on voit partout également, qui sont très ornementales, ces petites fleurs en cloche, souvent jaunes ou rouges vives, viennent d'Afrique du Sud. Les géraniums, ou pélargoniums, viennent également d'Afrique du Sud. Bon, on peut continuer la liste. Et bon, les lauriers roses. Tu sais qu'on voit des lauriers roses, on voit des quantités. Alors, les lauriers roses viennent d'autres régions de la Méditerranée. Ils viennent en partie de la Méditerranée orientale, où d'ailleurs Belon les a découverts. D'autres viennent du Maroc, où ils sont à l'état spontané au fond des ouèdes. Mais il n'y avait pas de lauriers roses en Méditerranée. Les super bougainvillées, qui sont sur tous les murs, viennent du Pacifique Sud, où Bougainville, avec Commerson, les a découverts il y a 3 siècles. Par conséquent, la question, ça devient, mais bon, arrêtez, et qu'est-ce qu'il y avait avant? Car on peut plus du tout imaginer la Côte d'Azur. Bon, ben, avant, il y avait du chêne liège, il y avait du chêne vert, il y avait des pins, Il y avait de la vigne, il y avait les plantes du symbolisme évangélique, le figuier, l'olivier, la végétation méditerranéenne non ornementale. Et tous les éléments d'ornement sont pratiquement tous des éléments qui ont été importés. De sorte que ce qui fait la beauté, le charme de la Côte d'Azur actuelle, ce sont des plantes qui ont été importées. Et ces mouvements d'importation continuent. Enfin, la pervenche de Madagascar y est en Méditerranée depuis maintenant une quinzaine d'années, qui est une petite pervenche qu'on voit partout, mais qu'il y a 20 ans, on ne voyait pas. On commence à voir arriver du Thévesia. Bon, c'est très récent, ça. C'est tout à fait récent. Thévesia s'appelle Thévesia parce qu'il a été découvert par le père Thévé, qui a aussi découvert le tabac. Mais il s'est fait piquer le nom du tabac par M. Nico, qui était ambassadeur. Le pauvre homme était un pauvre père. Et M. Nico, ambassadeur du Portugal, avait beaucoup plus de prestige. Et c'est à lui qu'on a dédicacé, pour faire plaisir au roi, le tabac. Vous voyez que par conséquent, il est pour nous très difficile d'imaginer ce que voyaient, quel paysage voyaient nos ancêtres. Comme d'ailleurs, il est difficile d'imaginer ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. Bon, la pomme de terre, il n'y en avait pas, ça vient d'Amérique latine, puisque nous parlions d'Amérique. Nous prenons uniquement l'Amérique, on ne peut pas parler de tout, n'est-ce pas? Mais la pomme de terre, les haricots, les aubergines, les tomates, le maïs, bon, tout ça est venu d'Amérique. Il n'y avait pas de café non plus, le café venait d'Éthiopie. Il n'y avait pas non plus de, thé qui venait d'Orient. Il n'y avait pas de cacao. Le cacao venait du Mexique. Il n'y avait pas de vanille, etc. Il n'y avait pas grand-chose. Et la nourriture des Romains, c'était ce que nous avons aujourd'hui divisé par 10. Ouais.
Alors, est-ce que les botanistes tiennent des comptes, c'est-à-dire sur leur registre, est-ce qu'ils notent les dates d'entrée de telle fleur, l'arrivée? Je ne sais pas s'ils leur font des cartes de séjour, mais on peut peut-être imaginer ce genre d'ouvrage important.
Écoutez, je crois que les ethnobotanistes font ça, c'est leur métier. L'ethnobotanique, c'est la science des rapports entre les plantes et les hommes. Et l'ethnopharmacognosie, c'est la science des rapports entre les plantes médicinales et les hommes. Et de fait, on connaît, en gros, pour un grand nombre de plantes, un peu l'état de la question. On sait quel est le botaniste qui l'a ramené le premier, on sait dans quelle collection au muséum on la trouve à l'état d'herbier, on se souvient que Robin a ramené le robinier de tel endroit à telle époque, etc. On a effectivement une information, une sorte de fiche, on pourrait constituer un état civil des plantes acclimatées et apprivoisées. Le jardin du roi, enfin qui est le muséum, le jardin des plantes actuellement, recueille et accueille depuis 300 ans, ce qui fait son extrême vénérabilité, des plantes venant du monde entier.
Rhododendron.
Vous êtes la plus belle.
Ophélie. Voici du romarin, c'est pour le souvenir. Je t'en prie, mon amour, n'oublie pas. Et voici des pensées. C'est pour la pensée. Au roi, pour vous, du fenouil et des encolis. À la reine, pour vous et pour moi, des soucis. Le dimanche, on l'appelle herbe de grâce. Mais vos soucis ne sont pas les mêmes que les miens. Moi, j'ai en plus une marguerite. J'aurais voulu trouver aussi quelques violettes, mais elles se sont toutes fanées.
Dans une perspective sociale, on découvre en effet que les plantes peuvent se faire la guerre, peuvent coopérer entre elles, peuvent envahir des territoires, peuvent faire de l'aide sociale, peuvent faire de l'aménagement du territoire, enfin bref, s'organisent un peu comme s'organisent nos sociétés. Alors ici on me dira, vous faites de l'anthropocentrisme, de l'anthropomorphisme, du finalisme, moi je connais toutes ces critiques que j'entends souvent. Mais là, je reviendrai volontiers à M. Humboldt. M. Humboldt pensait que les botanistes, d'une manière générale, les scientifiques, étaient toujours un petit peu trop étroits et qu'il y avait grand intérêt à voir un objet à partir de nombreux points de vue. C'est d'ailleurs l'idée que son frère développait lorsqu'il a créé l'université prussienne, qui fut le modèle de notre propre université. Et je partage tout à fait cette opinion. Je crois qu'en effet, il y a des lois communes à tout le monde vivant, et mon œuvre consiste à essayer de redécouvrir petit à petit, par la réflexion, par l'observation, fondée sur des fait scientifique incontestable, l'universalité de ces lois. Et il n'y a aucune raison de ne pas penser que les plantes ne sont pas assujetties comme nous aux lois même de la vie, avec ses organisations, ses hiérarchies, ses structures, ses compétitions, ses conflits, ses coopérations, etc.
Mais surtout que les plantes sont nos ancêtres, elles sont nées bien avant nous.
Elles sont nées bien avant nous, elles sont les ancêtres des animaux. Les animaux, ce sont des cellules végétales qui ont perdu leur chlorophylle et gagné un cil pour se déplacer dans la mer, de sorte que nous descendons, peu ou prou, incontestablement des plantes.
En colis.
Vous me jetez dans un grand trouble.
La matinée des autres.
Alors tu diras, oui, tout est juste, mais pas avant, jamais avant. Seulement quand viendra, avec l'eau très silencieuse, la respiration des fleurs. Salvador Espriu, Seigneur de l'ombre.
La route des fleurs, par Jacqueline Kellen. Avec Jacques Barrault, ethnobotaniste, Yves Lessu, du Muséum d'Histoire Naturelle, Jean-Marie Pelt, botaniste. Livre Guy Barthélémy, Les Jardiniers du Roi, édition Le Pélican. Marguerite Duval, La Planète des Fleurs, édition Segers. Lucien Guyot, Les Noms des Fleurs, édition Presse Universitaire de France, collection Que sais-je. Jean-Marie Pelt, Les Plantes, édition Fayard. Texte lu par François Mestre, Pierre-Yves Leprince, Maurice Travail, André Almuro, Frédéric Cantrel. La matinée des autres. Réalisation Michel Abgral.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1980. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.